25 ans d'histoire des capitales de Québec, 25 ans d'histoire au Stade Canac, au Stade municipal. Ça en a été toute une histoire au Stade Canac et au Stade municipal et capitales de Québec. Le baseball à Québec, c'est une grande famille. On le sait, on met les pieds au stade et on le sait qu'on fait partie de la famille. Ça se sent ici, là, au plus profond de nous-mêmes. Et les personnes qui peuvent nous en parler peut-être le mieux, ben c'est Michel Laplante, président de l'équipe, mais également Francine, sa conjointe, qui travaille pour les capitales de Québec. Et vous allez voir, ils ne sont pas les seuls de la famille Laplante à travailler pour les capitales de Québec, mais il n'y a pas juste cette famille-là. Ça, c'est une petite famille dans la grande famille. Ouais, les capitales de Québec, c'est une très grande famille. 25 ans d'histoire des capitales de Québec, souvenirs du stade. Épisode 7, la famille. Une présentation du Salon de jeu de Québec. Francine, Michel, salut.
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 Merci de vous joindre à moi pour cet autre épisode du balado portant sur les 25 ans d'histoire des capitales de Québec. On a touché à plein de choses jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, on touche à un aspect qui n'est pas tant baseball, mais évidemment, le baseball étant... J'oserais dire que le baseball, c'est une grande famille sur la planète Terre. Là, on dirait que quand il y a un fan de baseball, on réussit à connecter toujours en claquant des doigts. Mais la famille, c'est celle des capitales de Québec. Puis vous incarnez ça. Je veux dire, vous avez l'occasion de travailler ensemble au quotidien. Vous n'êtes pas tanné de vous voir. C'est pas, vous n'en êtes pas rendu là, certainement pas.
Faudrait pas.
Oh non!
je dis ça à la blague, mais honnêtement, c'est une question qu'on peut se poser. Là, à commencer à travailler ensemble dans les bureaux administratifs des capitales de Québec, je comprends qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas un travail routinier, évidemment, mais vous vous côtoyez toujours. Vous côtoyez votre fille très régulièrement aussi sur les lieux de travail. Donc, il y a quand même cet enjeu-là à calculer. T'sais, on doit parler d'autres choses rendues à la maison, Francine. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on se donne une règle de ne pas trop parler de baseball à la maison?
On essaie, oui. En fait, c'est notre fils Jean-Michel qui nous a... suggérer de se l'imposer. Okay. Parce que c'est facile de ne pas être capable de tracer la ligne. Fait que, oui, non, on y arrive, mais, tu sais, moi, j'aurais tout le temps envie, là, de... Parce que depuis que je m'implique, je comprends plus l'aventure.
Qu'est-ce que tu fais précisément chez les capitales de Québec?
Je suis coordonnatrice au partenariat.
Okay.
Donc, fait que depuis que je suis là dans le day-to-day, ça m'a permis de comprendre, surtout, les multiples retards de Michel. Parce que quand il arrivait tard le soir, tout ça, puis que j'étais à la maison avec les enfants, c'est difficile de comprendre. Mais quand tu es sur place, puis que tu vois ce qui arrive, ce qui est l'imprévu, un tel qui a besoin de telle information, un autre qui veut jaser à Michel un petit 5 minutes, la personne des États-Unis qui vient de débarquer, puis qui veut avoir un petit talk. Puis... Fait que c'est ça, moi, ça a été ça mon plus gros gain. À travailler au capital, oui, dans notre... Fait que c'est sûr que je suis juste dans le plus, là. Oui.
Mais pour mettre la table, juste pour comprendre notre situation, tu sais, c'est que nous, on est ensemble depuis qu'on a l'âge de 8 ans, OK? Donc, on va en troisième année ensemble, en quatrième année, en cinquième année. On était dans la même classe au primaire à chaque année. Donc, on revient de l'école ensemble, puis tout ça. Puis il y a une séparation où Francine déménage pendant un an ou deux à Montréal. Il y a une séparation avec ses parents, elle déménage à Montréal. Et quand elle revient, on redevient amis aussi. Et à un moment donné, je vais chez elle et je vois des photos de Tim Wallach, de Terry Francona. Puis je dis, c'est qui ces gars-là? Pourquoi tu les connais? Ben, elle dit, dans les dernières années, je suis allé au camp de baseball avec mon père à West Palm Beach pour suivre les expos. Et à ce moment-là, moi, je ne joue pas au baseball.
Non, c'est ça. Tu as commencé à quel âge?
À 19 ans. Mais quand je connais Francine, je connais Francine depuis l'âge de 8 ans, mais on commence à sortir ensemble à l'âge de 15 ans. Mais à 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans, je ne suis pas un joueur de baseball. Et finalement, quand j'ai l'opportunité d'aller jouer au baseball à Montréal, lorsqu'une personne me dit « Écoute, il me semble que tu as un potentiel, tu devrais y aller », ben, c'est pas Francine qui a dit non. Tu sais, je veux dire, elle dit « Oui, tu y vas, ça serait le fun, aller jouer au baseball. » Et c'est drôle parce que les années qui ont suivi, quand je signe professionnel, je joue contre Terry Francona, qui est coach avec les White Sox, avec l'année de Michael Jordan, contre Tim Wallach une année, contre tous ces joueurs-là. Et j'ai eu la chance de lui dire « Hey, toi, là, t'as déjà été sur la photo de ma blonde. » Puis c'était très drôle comme situation, mais... c'est pour ça que ça n'a jamais été difficile pour moi de continuer à jouer au baseball parce qu'à la base, tu as toujours aimé le baseball. Les discussions, baseball, même quand j'étais joueur. Moi, quand j'arrivais À l'âge de 22, 23, 24 ans, on était professionnels, on a toujours été ensemble, je jouais professionnellement. Puis Francine avait tendance à dire qu'est-ce qui s'est passé, puis je voulais parler autre chose.
Ah oui, c'est toi qui voulais changer le sujet.
Moi, c'était, pour moi, c'est il y a une grosse, grosse intensité quand on lance. C'est, on pouvait me demander, après un match, là, j'avais eu 126 lancés, j'étais capable de décrire dans les heures qui suivaient les 126 lancés en ordre. La tête est très, très focussée sur dans le moment présent. Mais une fois que tu veux sortir de là, viens pas me replonger dans qu'est-ce qui est arrivé en troisième manche. Ah, t'étais-tu déçu quand lui a fait une erreur en quatrième manche? Non. On a eu des débats des fois, on disait non, on parle de d'autres choses, on s'en va manger quelque part.
C'est capoté, ça, quand même. Ouais. Donc, suivre à l'étranger, ça n'a pas été un enjeu
non plus? Non. Moi, j'aimais le baseball avant lui, là. Tu sais, avant que lui commence, à 13 ans, j'étais une fan déjà, là.
OK. Ben, t'aimes plus encore le baseball que moi aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, je passe dans les estrades, puis là, on regarde deux manches ensemble, mais elle est capable de regarder 7-8 manches d'un match. Moi, j'ai de la difficulté. Tu sais, je veux dire, je suis capable de focusser sur quelque chose, une manche, deux manches, mais 7-8-9 manches, c'est trop long pour moi. Francine, tu pourrais... Oui. On est allé dernièrement aux Twins du Minnesota contre les Red Sox en Floride, puis tu étais toute contente de regarder le match, puis moi, après 4-5 manches, ouais, mais je vais aller me promener dans le stade, je vais voir autre chose, mais toi, t'es vraiment
capable. Moi, je me sens chez nous, là, dans le stade. Voilà.
Se sentir chez soi au stade, vous n'êtes pas les seuls à vous sentir chez soi au stade, par exemple, si on revient dans la famille des capitales de Québec à proprement parler, puis plus largement. Moi, chaque fois que je rentre dans les bureaux administratifs, c'est l'impression que j'ai, l'impression de la grande famille, des gens qui s'ils pouvaient coucher au stade pendant les mois d'été, le feraient pratiquement parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis c'est ça, ça finit tard, puis on prend-tu la petite bière d'après-match? Puis, c'est ça le sentiment qu'on a au stade quand on entre, puis quand on sort aussi, quand on se promène dans le stade, c'est la grande famille, c'est ce qu'on a.
Je pense que c'est une fierté d'avoir réussi probablement à installer cette chaleur-là. Parce qu'on est loin d'avoir les plus beaux bureaux, là. On s'entend, là, tu sais, c'est rien de confortable, c'est rien. Mais il y a quelque chose qui s'achète pas, tu sais, qui s'installe à travers le temps, à travers les années, à travers les personnes. Puis c'est moi, je suis vraiment contente de ça, que les gens se sentent aussi bien quand ils viennent.
C'est tellement beau ce que tu dis, puis peut-être que tu ne sais pas, mais le point que tu amènes est extraordinaire sur la grande famille, parce que les cinq, on travaille au stade. Donc, Janelle travaille au stade, Aliane travaille au stade, Francine, moi, puis Jean-Michel, ben il fait un peu de tout, puis en plus, il est au sport-études. Fait que l'hiver, son stock est dans mon bureau, parce qu'il est juste à faire 50 pieds, puis traverser dans le dôme, tu comprends? Mais on a l'impression que quand les cinq, on est à travers les 12, ben on n'est pas plus membre de la famille, nous cinq entre nous, qu'on l'est ensemble.
C'est ça.
Ça devient une très grande famille.
Ça devient une très grande famille, mais de façon très, très pure. Là. Ouais. Je veux dire, j'ai pas l'impression que Aliane, qui est juste là, ah, c'est mon enfant qui est là. J'ai l'impression qu'il y en a 8 autres enfants, là. Ou collègues, ou frères, ou sœurs.
Ça a pris combien de temps à instaurer ça dans les bureaux? Puis là, je comprends que vos enfants n'ont pas toujours été dans les bureaux du stade. Là,
oui, ils ont toujours été dans les bureaux du stade. Oui, non, mais Janelle est née le 11 octobre 1998.
OK.
Et on est déménagé à Québec le 15 octobre, 4 jours plus tard. Donc,
puis non, elle rentrait au stade.
Elle était dans les bureaux à l'âge de 4 jours, tout le temps dans la coquille. Fait qu'on l'amenait beaucoup au bureau à l'époque, en l'année 98. Après ça, le début de la saison. Et chaque enfant, on habitait la maison chez les Wolves à la naissance d'Aliante. Donc, c'est là qu'on était. Donc, était dans le stade, dans la maison-là. Puis même chose pour Jean-Michel. Donc, on a toujours été là. Mais instaurer ce sentiment de famille-là dans notre façon de... dans notre gestion, très, très, très proche, très, très familiale. Puis vous en parlez aux anciens qui ont travaillé là, tout ça, c'est très, très, très important. On est très, très proche.
Je pense que ce que tu as essayé de faire fort, c'est de donner un droit de parole à tout le monde. Chacun a le droit à son opinion. On fait beaucoup de brainstorming. Fait que tout le monde sent qu'ils font partie du projet.
Dont les brainstorming du jeudi après-midi. J'ai entendu parler de ça pendant nos enregistrements. Ouais. C'est fou, cette histoire.
Je pense que c'est des moments clés, ça, de bonding, là, de rapprochement entre les employés, tu sais, puis... Moi, j'adore ça. Là. Je travaille, puis j'ai l'impression que c'est tous mes enfants. Là, ils viennent me voir pour me demander des conseils sur le lavage. Des conseils. Fait que, on a cette proximité-là que c'est ça. Entre chacun d'eux, on les considère tous un peu comme vraiment notre gang rapprochée. Là.
Est-ce que ça a toujours été ça le feeling dans les bureaux des Capitales? Au lancement de l'équipe, j'imagine que ça, on disait que ça, c'est bien installé. Aujourd'hui, c'est de l'acquis pratiquement. Mais est-ce qu'en 99, 2000 et 2001, au départ, là, par exemple, est-ce que c'était un peu le même feeling ou ça a pris un certain temps avant de devenir ça?
Non, je pense que Miles Wolf l'a instauré en amenant sa famille à Québec.
Ouais,
ça donnait il habite en Caroline du Nord. Il déménage ses enfants qui ont 12 ans et 14 ans à Québec, change d'école, francophone. Déjà là, cet aspect familial de dire « j'amène ma famille », puis tu sais, le logo de Capi, ben ça vient de les enfants, puis Michel ont été impliqués dans le nom de l'équipe, dans le fait que ce soit un lion. Pourquoi un lion? Puis il y avait eu un concours, mais je me souviens, les dessins, les croquis, chez les Wolves en 98, sa famille est impliquée. Fait que quand nous, on est arrivé avec notre famille, ben ça a été accepté. Il y a eu Nicolas Labbé qui était directeur général, puis on passait tellement d'heures dans un bureau, tout le monde ensemble, que tu n'as pas le choix. Dans l'événementiel, ça devient une famille parce qu'il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de. C'est même dangereux pour ta propre famille si elle n'est pas impliquée parce que la première chose que tu fais, tu te dis merde, il est 8h15 le soir. T'sais, ça fait 2 heures que je suis supposé être parti, je ne l'ai pas vu.
Ouais. Je pensais qu'il était 6h15.
Ouais, c'est ça. Exact.
Mais ça, c'est une discipline. Donc, tu as raison. Là, si notre famille n'est pas impliquée de façon vraiment à proximité, ça prend de la discipline aussi pour être capable de ne pas juste être dans le baseball, même si c'est enivrant. Je pense que le mot, c'est enivrant là, quand on est là-dedans puis que la saison est sur le point d'être lancée. Ensuite, elle est lancée. Il faut garder le hype assez haut comme ça. T'sais, c'est plein d'étapes qui font qu'à un moment donné, c'est vrai, tu dois perdre la notion du temps, la notion du degré d'implication aussi. Tu dis qu'il n'y a comme plus de limite là, à un moment donné.
Non, c'est ça.
Je pense dans la longévité, là, de l'aspect famille, on l'a constaté cet automne parce qu'on a décidé de créer, Michel puis Charles ont décidé de créer des équipes en planification du 25e puis en planification du match des étoiles. Puis ils ont tous répondu, nos anciens, là, plusieurs de nos anciens qui sont proches encore, je parle dans la région de Québec, là, ils ont tous répondu à l'appel. C'était comme de revenir à la table pour un bon souper de famille ensemble.
Ah, c'est bon.
Puis d'échanger. C'est ce qu'on faisait.
Ils n'ont pas seulement répondu à l'appel, ils ont été avenants en nous disant « Avez-vous besoin d'aide pour le 25e? »
Ah oui?
Mais là, on avait « Êtes-vous sérieux? » Puis tu sais, toute la gang, fait qu'on, les Pierre-Luc, les Julie, les Anne-Marie, les Alex, toute la gang, ils se sont réunis les lundis soirs depuis le mois de septembre pour arriver avec des idées pour le 25e.
En mangeant de la pizza, comme dans le bon vieux temps.
À une époque où trouver des bénévoles, là, je ne dis pas que c'est impossible, mais on s'entend que c'est un Christi de défi. Aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, là, c'est très difficile. Là, ces gens-là ont levé la main.
Ouais.
Eux autres, pour eux, là, l'esprit de famille, ça n'a jamais parti d'ici. C'est resté ancré en eux.
Et ils sont arrivés avec des idées qu'on a tellement hâte de vous présenter. Mais...
ben, dont ça ici, dont ce qu'on fait en ce moment, c'est sorti de ces brainstorms-là.
Des échanges,
là, on a parlé du beau. Il y a des défis aussi dans la gestion d'une famille. Bon, évidemment, vous, de gérer ce dont vous parlez à la maison, on va vous laisser ça, mais visiblement, vous avez déjà des mécanismes bien implantés pour pas trop parler de balles. Mais la route. T'sais, moi, je pense à Pat Scalabrini, puis là, il n'est pas ici pour se défendre, mais Pat, les joueurs et tout ça, c'est beaucoup, là. Moi, je décris les matchs, puis je vais pas sur la route, puis je trouve que c'est exigeant sur le plan familial. Ajouter la route, ajouter les entraînements, ajouter d'arriver. Je comprends, là, tu sais, souvent on parle de joueurs. Quand on parle de joueurs, c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup une famille. Généralement, ils n'ont pas de famille derrière eux, puis tout ça. Mais ça reste que c'est un défi en tabarouette, là. Toujours le défi de l'équilibre.
Bien, nous, là, je vais faire référence aux 5 années où il a été entraîneur.
Ouais.
Il nous a permis de l'accompagner. Fait que. Et grâce à Mario Morissette, qui était le journaliste de l'équipe à l'époque, parce que évidemment que la famille n'est pas admise dans l'autobus, mais lui, il suivait l'équipe. Fait qu'il acceptait de nous emmener, les quatre.
Wow.
Puis je me souviens de la dernière année où Jean-Michel n'était pas vieux, là. Il était vraiment pas vieux, là. Fait que, mais Mario acceptait à toutes les 2h30 environ de faire un arrêt pour que je puisse changer la couche à Jean-Michel. Il fumait sa cigarette. Et on rembarquait comme ça. Puis avec sa fille, qui apportait, lui aussi, qui nous accompagnait. Fait que nos enfants vivaient dans les chambres d'hôtel. C'était une dynamique. Ils avaient hâte à chaque saison suivante. c'est des saisons où ils avaient leurs vêtements dans les tiroirs pour les matchs à domicile et ils avaient les vêtements dans la valise. C'était pas la même garde-robe. Là.
Toujours prêt.
Fait qu'on revenait d'un séjour sur la route, je faisais le lavage, je remettais ça dans la valise pour la semaine suivante pour être prêt à repartir. Fait que...
Ce qui aurait pu virer mal avec... avec des enfants qui disent « Ouais, mais vous n'étiez jamais là à cause de ton travail. Ouais. » Ça a viré en « C'était donc le fun quand tu coachais parce qu'on pouvait aller sur la route. » Même que quand j'ai pris ma retraite comme coach, vous n'étiez pas d'accord parce que...
C'était un gros deuil pour moi.
C'est spécial parce que c'était « Ouais, mais là, on va à Boston, on va à New York, on va partout, c'est cool. Ces voyages-là, on ne les fera plus. » Mais non, on ne les fera plus, tu sais. Fait que c'était spécial. Puis tu sais, on était des parents, quand tu regardes ça aujourd'hui... On était déjà critiqués à l'époque parce que nos enfants se couchaient à 11h30, minuit le soir, parce que...
Tu sais, Janelle, elle appelait ses grands-parents à 11h15, là, soir, pour dire qu'on soupait en revenant du match.
En revenant du match, on soupait, puis il se couchait tard, puis il se levait tard.
Mais elle se levait à 11h, le lendemain.
Il était sa routine du baseball. Puis tous les joueurs les connaissaient. Même une anecdote très drôle, à un moment donné, notre voiture, là, tu l'avais faite avec ta voiture, le moteur saute.
Non, c'est Mario.
C'est là, ouais, la voiture fonctionne pas, puis tout ça. Puis là, ils sont sur le bord du chemin. Puis là, finalement, c'est... fait que je sais pas quoi faire. Là, Éric Gagné, il dit « Qu'est-ce qui se passe? » Ben j'ai dit « Leur voiture, fait que je sais pas quoi faire. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais pas quoi faire? » Il dit « Amène-les dans l'autobus. » Ben, j'ai dit « Non, je veux pas imposer ça aux joueurs, tout ça. » Il dit « Attends une seconde. » Il demande à tous les gars. Il dit « Viens, on avait des lits en haut, tout ça.
En 2009.
Ouais, oui. Les enfants parlent encore de ce fameux voyage-là. Ils sont venus dans l'autobus de l'équipe. Puis là, ils ont vu que ça jouait aux cartes. Puis ils ont tout vu ça aller. Puis toute l'équipe, écoute, ils vont en parler pour le restant de jour, je pense.
J'ai fait un voyage dans ça, l'autobus modifié. Ouais. Puis ça avait été, effectivement, j'avais constaté, tu sais, je reviens dans le cliché de l'esprit de famille, mais ça, je veux dire... T'habites dans l'autobus avec toute ta gang de joueurs. Puis parlant de la gang de joueurs, allons là-dessus. T'sais, là, on a parlé des bureaux, on a parlé de vous. Les joueurs aussi qui débarquent ici à Québec, la façon dont ils sont accueillis, de la façon dont ils sont gérés aussi, parce qu'ils sont gérés, les joueurs, quand ils arrivent à Québec. Il y en a qui se font prendre par la main. Puis c'est un milieu qui est réconfortant, qui est rassurant.
Ouais.
Ça fait partie certainement du succès de l'équipe aussi, d'avoir de réussir à bâtir cette petite bulle-là à l'intérieur. Une petite bulle, c'est une grande bulle familiale. Là. À 23-24 joueurs, là, ça devient une grosse bulle familiale.
Il y avait deux façons de voir les choses dans cette approche-là. C'est que la plupart des coachs qui ont vécu les mineurs aux États-Unis, on ne prend pas ma main soin de toi. Tu arrives, tu trouves un appartement, il faut que tu trouves des meubles. Une lampe, c'est 4 piastres par mois. Un divan, c'est 9 piastres par mois. Tu vas dans des endroits comme ça.
Ouais.
Puis là, tu loues. Si jamais tu es échangé le 16 du mois, il te reste 14 jours à payer, bien, tu viens de perdre 14 jours de paiement. Puis avec qui tu vas être, tout ça, c'est très, très, très complexe.
Ça nous avait fait mal, ça. C'était tough.
Ouais,
c'était tough
à vivre. On l'a vécu. Puis là, quand on est arrivé à Québec, ça a été de dire... Je me souviens même, on n'était pas d'accord, Mars puis moi, sur le début à Québec, mais c'était... ouais, mais les gars vont se trouver un appart, puis ils vont trouver leurs affaires, puis c'est bien correct comme ça. Puis non, à toutes les fois qu'on a passé par ça, on a trouvé ça dégueulasse, puis que ça n'avait pas de bon sens. Pourquoi qu'on ne ferait pas un autre coche? Et on l'a amené complètement à l'autre bord. Un, on parle français, ils n'ont aucune chance d'aller se débrouiller, puis toute l'équipe, ça ne sera pas facile. Fait que j'aurais pu dire, ouais, mais moi, je ne parlais pas anglais, puis j'ai trouvé une façon. Non, on va trouver une façon. Après ça, l'appartement, quand ils vont arriver, ils vont déjà avoir les meubles. On va trouver des beaux qui ont du sens. On va lui donner des parcours. Puis pourquoi pas, même quand ils arrivent dans leur chambre, avoir une petite carte de bienvenue avec une petite boîte de chocolat, puis avoir déjà du lait et des œufs dans le frigidaire. Tu sais?
Ah oui.
Pourquoi pas faire.
Ça fait toute la différence.
Et c'est ce qui est arrivé. Puis l'autre partie pour en venir avec ces gens-là qui sont devenus la famille, bien. On doit dire que les dames, ça, c'est pas quelque chose qu'on contrôlait, mais ils sont presque tous tombés en amour avec l'âme sœur à Québec. C'est donc, ces joueurs-là, normalement, là, une équipe indépendante, ben tu joues un an, tu signes, tu repars ailleurs. Mais là, quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça devient une famille. Puis là, toute cette gang-là qui sont encore à Québec aujourd'hui, c'est hot, là.
Il y en a plusieurs.
Ah, c'est...
À chaque Noël, il y a un super retrouvaille, là, puis vous êtes une vingtaine.
Eddie,
là.
Goffrey, TJ, Brad Purcell, écoute, Mike Provencher. ils sont tellement, tellement nombreux.
Et TJ Shimizu, même des premières années, hey, c'est incroyable. Là. C'est il y a 20 ans, ça, là.
Puis ils parlent tout français. Ouais. Tu parles avec Garfield, tu parles en français. Tu parles avec... Tu sais, Brad est quand même un Australien, là, qui juste de le comprendre en anglais, il y a 13-14 ans, c'était pas facile. Là, il parle français, puis il y a les expressions québécoises. Fait que c'est drôle parce que quand on se réunit 2-3 fois par année où on se croise, les 5 premières minutes, il y a encore un choc. Et « Salut toi, comment ça va? » Là,
ah oui, hein?
À chaque fois. À chaque fois, il y a comme quelque chose de tellement beau. Là, non, je peux pas croire. Puis là, ils ont des enfants à cette heure à Québec. Puis là, ils parlent à leurs enfants en français et en anglais. C'est
du monde qui vient ponctuer nos vies. Hein? Des rencontres qui ne sont pas annoncées, des rencontres qui se font par la force des choses parce qu'il y a une équipe de baseball, puis ça donne que moi, je joue dans cette équipe de baseball là, où mes proches me suivent. Parce que c'est fou quand même hein, à quel point on prépare pas ça, on n'attend pas ça, et ces gens-là deviennent partie prenante de notre vie.
On était sur le chemin du retour de la Floride, puis on a fait escale à New York pour rencontrer notre ami Giancarlo Di Prima, qui était de la toute première édition. Ouais. T'sais, cette amitié-là, elle perdure. Ils ont accueilli, lui et sa famille, Janelle, pour qu'elle puisse faire un séjour pendant son secondaire 4, pour lui donner la chance d'apprendre l'anglais. Et là, dans le cadre du 25e, on se fait un devoir. Là. Il essaie à chaque année, ses filles sont impliquées dans le soccer, mais c'est difficile de venir à Québec. Mais ils vont être présents et c'est extrêmement important pour lui. Depuis 25 ans, dans sa tête, c'est un souhait de... Il s'est dit un jour, quand je vais avoir des enfants, ils vont voir Québec. Ouais. Je suis certaine qu'il va les amener à Stoneham. Il va leur montrer le condo où il était. Puis ce qu'il avait, c'est marqué. Puis sa conjointe était là aussi. Fait que leur attachement, là, c'est à vie. Là. C'est certain qu'ils vont. Ouais.
Parce que moi, je repense toujours à la barrière de la langue là, pour débuter. Puis je comprends là, que ces joueurs-là sont là ici à Québec, puis milieu francophone. Puis à un moment donné, t'apprends quelques mots ici et là. Mais entre apprendre quelques mots ici et là, dire merci beaucoup à quelque part dans le milieu de la saison au micro parce que ça donne bien, et l'autre extrême, ça va être de s'installer au Québec, au Canada, aux frais de tabarouette.
Oui,
c'est ça qui est renversant. Qui on disait qu'il venait de la Floride? C'est TJ Stanton, je pense.
Choisir la neige, c'est incroyable. Je peux
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que TJ? Oui. Il y a un hiver qui dit « Je peux-tu rester ici? » Non, tu peux pas être sérieux. Oh. Oui, je veux rester cet hiver. La première fois qu'il a dit ça, on était comme...
Il n'y a personne ici qui trouve ça normal. Oh. Mais...
Non, exactement. Mais ça a amené à des moments vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels. Puis on faut pas non plus écarter... parce que là, on parle des anglophones qui ont appris, mais même les joueurs francophones de... qui viennent pas de Québec, qui sont maintenant installés ici. Tu sais, on prend les Pelé, les Malo, puis bien d'autres joueurs qui sont
oui,
ici.
Ben oui.
Fait que imagine la retombée sur l'ensemble du baseball à Québec, d'avoir toute cette expertise-là qui vous, demeure à Québec.
Vous autres, votre famille, ouais. Je veux dire, si vous n'êtes pas à Québec, vous retournez vivre en Abitibi, parce que là, moi, j'apprends que vous êtes les deux originaires de ce coin de pays-là, ouais. Puis imaginez, vous reprenez la décision, ben nous, on retourne dans notre vie d'avant. Là, tu sais, j'ai vécu mon trip... Le paysage baseball à Québec est complètement différent.
Puis il y a quelque chose de très spécial qui se passe, puis on le voit avec les autres villes, puis c'est assez difficile à comprendre, là, mais c'est jusqu'à quel point il y a une cohésion entre chacun de nous. On est tous un peu intervenants dans le baseball. T'sais, puis là, je rajoute Christian Chénard qui est au Sport-Études. Mmh. Donc, ouais. JP Roy, puis même ceux qui n'ont pas joué avec les Capitals, les Dave Dufour, les Dominique Walsh, tout ça, qui sont impliqués, puis qui font partie de cette grande famille-là aussi. Il n'y a pas de chicane, là.
Ouais.
Il n'y a pas de « Ouais, mais moi, je pars en académie, fait que je suis contre la tienne, puis je pars un magasin, je suis contre le tien. »
Même Eddie vient de partir son
oui pour. Et lui. C'est parfait. Puis s'il y a des besoins de des billets pour ces jeunes, pour les capitales, n'importe quoi, c'est « Hey, tu travailles pour le baseball, ils sont capables d'aider de ça. » Donc, il n'y a pas ce...
Non, tout le monde a compris qu'on gagnait à s'unir là-dedans. Là.
Ouais. Fait que c'est pas la famille des capitales, c'est la famille du baseball à Québec et au Québec même. Parce que, tu sais, on a parlé à Max Lamarche dans un podcast aussi. Tu sais, l'impact des capitales, il n'est pas juste à Québec. Il est partout, partout. Donc, nécessairement... On vient même encore élargir les cadres de cette fameuse famille dont on parle depuis tout à l'heure, la famille du baseball au Québec, c'est ça? Hein?
Puis s'il fallait qu'il y en ait un, à un moment donné, dans la gang, qui dérape un peu, c'est là que c'est une vraie famille. C'est qu'il y aurait une rencontre avec toute la gang, puis écoute, là, on va pas vers là.
Okay.
On a du plaisir, on est tout heureux. Puis Puis tous ces jeunes-là, qui, les enfants qu'ils ont, sont tous en train de pousser. Ils sont tous dans le 5, 6, 7, 8 ans. Ça va être le fun à voir dans les prochaines années. Là. Ben oui. Parce qu'on se côtoie. Puis,
les joueurs de deuxième génération.
Ouais, ouais. Peut-être. Ou d'autres sports, peu importe. Mais je pense qu'il y a des belles valeurs qui sont transmises. Puis ils ont l'impression que c'est des jeunes-là qui font que avec leurs parents, ils font partie d'une grande famille à Québec. Ils sont toujours les bienvenus.
Les joueurs qu'on côtoie, étaient apprêtés, c'est des joueurs qui sont, si on fait un chiffron, là, entre 20 et 35 ans, mettons. C'est des gens qui sont en train de prendre leur élan dans la vie ou des fois qui saisissent la dernière chance qu'ils ont dans le baseball, mais ils ont un point commun, c'est que généralement, la famille ne suit pas. Moi, je me souviens, c'est qui notre Néerlandais qui était parti en plein milieu de saison parce que
Sam,
voilà. Tu sais, je veux dire, c'est un récit qui est pratiquement à arracher le cœur. Tu sais que sa femme enceinte est à l'autre bout du monde. Lui, mm-hmm. vient jouer au baseball à Québec, tu sais. Ouais. Ces joueurs-là, entre eux aussi, parce que là, je parle d'une famille très large, mais il y a une famille plus restreinte qui est les 20-quelques joueurs aussi. C'est important pour qui aient 20 ans ou qui aient 35 ans, puis peu importe la situation, c'est important pour eux d'être capables de se dire, hey, on est un groupe soudé. Là. Je suis persuadé qu'on le voit régulièrement. Là, on se promène au stade, puis on voit que ces gens-là sont ils sont comme ça, là, ils sont bras dessus, bras dessous.
Oui, je pense hein, qu'ils sont... Je pense souvent avec ce que tu viens de dire, je pense à Mandoulé, là,
ouais.
qui vivait...
Cubains,
bon, quoi, t'as ouais. raison.
Tu sais, il était... Fait qu'on a été chanceux parce que, en tout cas, dans ce cas spécifique-là, avec Mandoulé, son fils a le même âge que notre garçon Jean-Michel. Fait qu'on pouvait... Moi, j'étais très, très sensible à ça. Puis il était aussi ici un peu en mission pour sa famille, espérer, tu sais, pour la suite des choses. Puis tout le monde semblait bien collaborer dans ce sens-là. Mais fait que... Et lui, il a eu le réflexe de prendre Jean-Michel sous son aile. Puis de... Je sais pas s'il allait chercher un petit côté un peu plus... Il se disait, j'ai pas la chance de le faire avec mon fils. Fait que, puis j'ai cet enfant-là.
La fille paternelle qui continue de vibrer un peu. Là.
Fait que c'est lui-même, tu sais, qui appelait Jean-Michel et disait, viens-t'en. Et ils pouvaient passer une heure ensemble sur le terrain. Jean-Michel parlait uniquement français, lui, il parlait uniquement espagnol. On les regardait.
On n'a jamais compris hein, qu'ils se comprennent.
Ils se sont compris de la première à la première seconde jusqu'à la fin.
Pendant quatre ans.
Oui, c'est ça, ça a échangé. Alors, on ne sait pas trop
qu'est-ce
comment.
Qu'ils se disent?
On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Puis à la toute fin, juste avant qu'il prenne l'avion là, pour la dernière saison où il était à Québec, là, il a demandé à voir Jean-Michel sur la terrasse. T'sais. Puis ils ont eu un petit talk, d'après moi, là, avec le peu d'anglais qu'il y avait chacun. Puis le message s'est passé là. T'sais. C'est une figure vraiment importante pour Jean-Michel.
Il Mandou. Va se souvenir de cette personne-là
ouais,
toute sa vie.
Ouais.
Toute fait sa vie.
Puis Patrick, il y a des enfants, là, maintenant, ouais. les joueurs qui accueillent, qui n'ont pas leurs enfants avec eux, là, il est sensible à
ouais,
ça.
Hein?
Puis, tu sais, si le joueur disait, écoute, il faut que je retourne 2-3 jours chez nous, ouais, vas-y, là. Tu sais, c'est les priorités, puis tout ça, il les connaît aussi, là. Donc,
je pense aussi, nous, en étant à Québec, on n'avait pas notre famille proche avec nous. Puis le jour où tu réalises que ce besoin-là que des grands-parents peuvent apporter ou puis qu'ils sont pas là à cause de la situation géographique, si tu t'élèves le regard puis tu regardes autour de toi, il y a souvent des personnes dans ton entourage qui vont être capables de jouer ce rôle-là. Là. Des fois, un petit peu moins personnellement, mais moi, c'était très important pour mes enfants de voir. Et on a Ray, notre beau Ray, qui est arrivé dans notre vie au stade, puis qui est le
grand-père de tout le monde.
De tout le monde, le troisième grand-père de nos enfants. Là. Et il y a cette figure-là de sagesse.
Pour tout le monde, pas juste nos enfants, non, pour l'ensemble.
Mais c'est l'oncle, puis le grand-père de...
Ray qui est traducteur.
Oui, c'est ça.
Incroyable, hein? C'est une personne.
Il est dans nos soupers de famille de Noël, là, maintenant. Ray fait partie. Mais voyons
donc.
Mais oui, ouais. C'est ça l'impact.
J'aurais le goût de l'inviter moi aussi. C'est vrai. Non, mais blague à part, tu sais, c'est tellement une personne comme ça qui, effectivement, par son humour, qui est rassemblant. L'humour, c'est important dans une grande famille comme le baseball, comme une équipe de baseball, les capitales. L'humour, puis moi, je le sens au stade, là, souvent. Tu sais, vous êtes deux personnes qui aiment rire. Pat aime beaucoup rire. Il est pas sans rire, mais il aime rire en tabarouette aussi.
Beaucoup.
Puis ça prend ça comme coach.
Ouais.
Ça prend ça comme coach parce qu'à un moment donné, si tu te prends trop au sérieux, là.
Tellement. Puis Pat a tellement compris ça parce que, c'est 96 matchs en 104 jours qui s'en viennent là, cet été-là.
Mm.
Je veux dire, c'est comment il va gérer les parties les plus difficiles qui font qu'il ne connaîtra pas 8 défaites d'affilée. Tu comprends-tu?
Parce mais c'est que, de ne pas paniquer à 4, ça veut dire paniquer, ça.
C'est ça, exactement.
Puis de faire la bonne joke dans la bonne visite au monticule. Puis,
je dirais banaliser certaines affaires. Puis quand les joueurs sont fatigués pour toutes sortes de raisons, parce que ça fait 22 matchs en ligne qu'ils jouent, de dire hey, écoute bien, là, c'est pire que ça. Là. Puis là, tu sors une joke ou quelque chose. Mais tu sais, même dans notre cas à nous, tu sais, on parle tantôt, puis là, les gens nous regardent probablement en disant hey, c'est un fleuve tranquille, puis c'est facile parce qu'elle aime le baseball. Là. C'est pas ça du tout qu'on a vécu. Hey, tu sais, moi, là, les années là, 2005-2006 jusqu'à 2011, tu sais, par une entreprise B45, j'étais directeur général de l'organisation en étant le coach aussi. Fait que,
une transition de coach à un moment donné.
Ouais, non, c'était pas. Je veux dire, elle a été très gentille tantôt en disant que j'arrive en retard.
Des fois, t'arrivais pas.
Non, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire,
Non, j'ai pas toujours été correct, là. T'attendre, il revenait de la route, là. Puis la tondeuse était là. Toutes les corvées étaient listées pour. Ouais. OK, là, maintenant, t'es à la maison. Cette semaine.
Mais il y a un défi de garder la tête hors de l'eau en tant que couple à ce moment-là, dans ta famille.
Exactement. Il faut vraiment là, que tu discutes, mais des fois, le ton monte parce que toi, t'as l'impression, justement, puis je reviens à la famille, t'as l'impression que t'aides à la famille capitale, puis t'as ta famille à maison, puis la meilleure façon de faire... Un
conflit de loyauté là-dedans.
C'est ça, un gros conflit de tout. La façon de faire, c'est peut-être de jumeler les deux familles ensemble, ce qu'on est arrivé à faire, mais pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, t'es sur la route avec l'autre famille pendant une semaine, puis là, tu reviens passer juste 3 jours à Québec. Mais dans ces 3 jours-là, à Québec, t'as promis aux 2 nouveaux joueurs que tu signes sur la route que tu lui trouveras un appartement, que t'es aideras à s'installer, mais là, tu as juste 3 jours à maison, puis tu repars un autre 16 jours, tu comprends-tu, puis t'as tes enfants, puis tout ça, fait que... Il fallait quelqu'un pour tenir le fort. Puis de l'autre côté, ben, tu as B45 qui est en train de grandir puis de développer. Puis tu as promis que dans les 3 jours que tu revenais à la maison, tu allais faire un tour à la shop parce qu'il y a une machine qui marche un peu moins bien puis qu'il y a telle chose. Puis ton rôle de directeur général, ben, il y a 2-3 situations qu'il faut que tu règles dans revenant. Fait que des fois, il y avait le retour de 72 heures à la maison, ben, il n'y avait aucun sommeil. C'était 72 heures, puis je dormirai sur la route quand on retournera. Fait que, mais sans se plaindre, là, mais je veux juste que tu comprennes, que les gens comprennent que c'est tout le temps tout facile.
On court 25 ans en quelques minutes, mais si on s'attardait aux minutes des 25 ans, là, ce serait autre chose. C'est sûr, c'est normal. Ouais. Puis c'est d'être capable de mettre le doigt sur les trucs qui ont permis de garder ça positif en tout temps.
Ouais.
Ça n'a pas toujours été positif, par exemple. Puis il y en a eu des défis dans la famille des capitales de Québec. Puis l'éléphant dans la pièce, c'est l'accident de Bob Bissonnette. Qui est décédé il y a quelques années déjà. J'ai envie de te demander comment ça s'est passé, mais comment est-ce qu'on a, en tant que famille chez les Capitales, réussi justement à garder...
Je pense que ça a été une étape où on a réalisé de ce qu'on est en train de parler. C'est qu'on était vraiment une grande famille parce que on a partagé toute la tristesse, fait retour sur les beaux moments chacun qu'on avait vécu ensemble. Tout ça. Donc, ça a été... ça a été probablement un des moments forts qu'on a vécu avec les Capitales. Ça a fait aussi réaliser beaucoup l'importance de la communication. Moi, en tout cas, ça a fait énormément ce facteur-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait il y a dans ta tête toutes sortes d'idées, surtout là, qu'on était dans des changements avec l'intention, avec la Ligue, réparation. Tu sais, on est en 2016, là, donc réparation pour le stade, le synthétique s'en venait, la Ligue, plan corporatif, il y avait tout des choses comme ça qui souvent étaient dans ma tête. Puis là, ben, tu as le réflexe de dire, OK, mettons que je n'étais pas ressorti de là. Est-ce que toutes ces idées-là étaient partagées avec mes proches, ma famille, puis des choses comme ça? Puis ça a été le réflexe hein, qui a suivi de là de tout partager. Donc, depuis ce temps-là, c'est quoi la réflexion avec la Ligue, où on s'en va? Bien, il y a toujours quelqu'un, puis là, c'est beaucoup Charles, puis Francine aussi, parce qu'on travaille aussi ensemble, mais il y a toujours quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe.
Okay.
Parce que s'il arrivait quelque chose à un membre de notre famille, ben, on est capable de continuer ce qu'on fait de si bien. Fait que ça a été un gros, 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 gros déclic. De réaliser que si tu as vraiment le sens de la famille, c'est que si jamais tu pars, ben tout est capable de continuer d'avancer. Ouais. Comme on le souhaite. Là.
Je pense que ça a été salutaire aussi, le fait qu'on a tenu les funérailles. Là. Bob a été une partie. Mm-hmm. Quoi, que Bob a été exposé au stade.
En Chapelle Ardente.
Oui, en Chapelle Ardente, c'est ça. Fait que ça, je pense que ça l'a aidé tout le monde.
Le processus.
On s'est resserré les coudes tous ensemble à organiser ça, tout ça. Puis ensuite aussi, l'événement qu'on a tenu au stade là, pour le spectacle. Là. Mm. Ça aussi, je pense que ça a été une étape
qui a aidé. Pour la sortie du film,
oui,
avec le spectacle.
C'est ça. Sur l'écran géant, ouais, oui, c'est ça. Fait que, ouais.
Ça voilà. Fait quelques fois qu'on constate qu'on a saisi l'occasion alors qu'il y avait un défi qui se présentait. C'est un peu dans la culture de l'équipe et de l'organisation, ça, hein? De se dire, ben là, on a ce coup de pied-là qui nous arrive en pleine face. Il me semble qu'on pourrait se tasser et réussir à repartir par en avant après ça.
Eddie Lantigua, il dit tout le temps ça avec son bel accent. Il dit, tant qu'à manger un coup de pied dans le cul, il est mieux de te pousser vers l'avant. Et,
c'est bon.
Des fois, je le vois. Il dit, tu sais, Michel, tant qu'à avoir un coup de pied dans le cul, il faut aller vers l'avant. Tellement drôle, il paraît, mais c'est vraiment ça. C'est qu'il arrive des obstacles, puis des fois, tu peux prendre conscience de ce qui vient d'arriver, puis en plus, ça devient très, très rassembleur. Bob était très rassembleur, puis à son départ, il a créé un grand, grand rassemblement de valeurs, de pourquoi on était. Puis la famille des capitales est devenue encore plus soudée suite à ça.
J'en ai une autre histoire qui est peut-être moins connue du public un peu, mais ça a fait partie des défis. Puis je pense que la famille capitale, encore une fois, pour reprendre la thématique, a été cruciale là-dedans. Moi, j'ai côtoyé beaucoup un gars comme Pat Deschênes dans les années où il a été avec les capitales de Québec. Puis on sait que Pat a eu certains problèmes par le passé avec la consommation. Ça n'a pas tout le temps été facile. Mais les années qu'il a passées à Québec, il n'a pas été bon. Il a été dominant. Il a été une des figures marquantes de cette équipe-là. Les gens criaient Pat Deschênes dans les estrades. Puis on se rappelait les belles années des Alouettes de Charlebourg. Puis on savait qu'il arrivait des filiales des Mets de New York. C'est une grosse étape, ça aussi, dans la vie d'un individu qui connaît des difficultés. Puis que là, il se retrouve dans un environnement gagnant. Mais pas gagnant en termes de match, là. Gagnant en termes de vie. Je réussis à remettre ma vie sur les rails. C'est une belle fierté d'équipe quand même, ça.
En fait, le moment du retour de Pat, là, c'est quasiment un moment de film, là, parce que quelques mois avant, Pat recommence à jouer au baseball senior.
OK.
Et Olivier Lépine, avec l'entremise d'un ami, me dit « Il est trop fort. » Ouais, il est trop fort, mais ça lance moins fort dans le senior. Puis... Non, non, non. Écoute, Olivier, je suis capable, je vais aller le voir, puis capable d'évaluer si quelqu'un... Et là, c'est aussi rapide, puis il revient en forme, puis toute la quête. Fait que finalement, je suis au courant de l'histoire de Pat, ce qu'il a vécu, puis on veut-tu le replonger dans le baseball professionnel, puis tout ça. Fait que vraiment, là, du bout des lèvres, là, prends le téléphone, l'appelle, puis écoute, Pat, quand tu seras prêt, puis tu sentiras que c'est le bon moment pour venir avec nous, là, tu as juste à appeler, puis on va te prendre. Je ne sais pas si c'est 2-3 semaines plus tard, il dit, écoute, je pense que je serais prêt. Il fallait que ça fitte avec
l'espace.
Oui, mais nous, de l'espace, de l'espace au sein de l'équipe, puis tout ça, puis ça fitait. Puis je ne sais pas si c'est son première apparition au bâton, ou son, en tout cas, deuxième, troisième, et dans le match, là, il a frappé l'autre côté par-dessus le tableau, là. Écoute, c'est un moment de grâce, là. Tout le monde. Ses parents pleuraient.
Victoire de vie.
Pleurait. Ah, ouais,
j'ai des frissons. Ouais. Tu me racontes ça, j'ai des frissons. Non,
on se regardait, puis on croyait même pas. Puis juste, tu sais, le sourire à Pat, il est beau, là. Tu sais, quand Pat part à rire avec sa bête
de... Il est tout sympathique, pareil.
Ouais, mais sa bête de rockstar, là, tu sais. Puis là, il croise le marbre, puis il fait juste un petit soulagement, puis toute la kit, là. Mais tu sais, il a fait des jeux dans ces années-là. Puis encore une fois, il est venu dans les années où tous ces Québécois étaient là.
Ouais.
Qu'on a vraiment, vraiment trippé. Fait que ça a été beau. Puis de le supporter, parce que, veux, veux pas, dans l'équipe, là, tu sais, Pat consommait pas d'alcool beaucoup, puis il faisait attention, tout ça. Puis autour de lui, les joueurs, des fois, faisaient le party, puis tout ça. Puis on comprenait sa situation. Puis c'était correct. Fait que ça a fait partie de ça a été une belle pièce de tout ce puzzle-là durant cette belle séquence-là de 5-6 ans.
Des petites étapes de franchise, quand même, qu'on ne veut pas oublier, même si ça fait 15 ans. Je ne peux pas croire que ça fait 15 ans, ça n'a pas de bon sens. Je terminerai avec le fait que le baseball, c'est un sport qui est rassembleur. On a aussi la passion des belles soirées puis des beaux moments. Hein. Il y en a un que vous avez vécu, sais-tu l'été passé ou s'il y a 2 ans, la fameuse panne d'électricité? Oh. Ça, c'est malade. Là. Quand je parle de famille, s'il y a une famille qui a été touchée par ça, il y en avait plein dans le stade, là, mais il y a entre autres vous autres, les Laplante. C'est...
Ouais, il est arrivé quelques moments beaux. Comme,
ce moment-là, c'est un moment de grâce. Mais
avant celui-là, le match...
Juste pour remettre en contexte pour les gens, là, il y a eu panne d'électricité et on a installé un stage sur le terrain avec appui de génératrice ou quoi que ce soit. Puis votre fille est allée jouer pour le stade.
On a demandé d'aller jouer. Puis quand elle a chanté le Sweet Caroline, les gens ont allumé les cellulaires. Puis quand on est arrivé à la fin de la chanson, les lumières commençaient à rallumer.
Oui, l'électricité revenait.
C'était quoi les chants? Les gens nous ont demandé, c'était-tu organisé? C'était-tu stagé?
Pas du tout. Non, parce qu'Ali...
On travaille dessus depuis le mois de mars.
J'ai dit à Ali, ça serait comme cool, là, le Sweet Caroline. Là. Elle fait, maman... Vraiment. Elle dit, OK. OK. Fait que là, ça a été mis en place.
Il y a deux ans, au début de la saison, Janelle était comme... Janelle était celle qui s'occupait du script promo du match.
OK.
Fait que, vu que c'était le retour du baseball après la pandémie, il fallait que je dise quelque chose aux gens. Puis j'aime pas prendre le micro puis parler en public. Je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas le faire.
OK.
Puis quand je le fais, c'est parce que on me convainc que là, ça serait vraiment important de le faire. Puis tout ça fait que elle me passe le micro pour faire
une petite allocution
aux gens que c'est le retour du baseball. Merci d'être présent. Elle passe le micro à Liane qui chante l'hymne national et elle dit dans les écouteurs à la fin des hymnes nationales, « Vas-y, Jean-Michel, puis il paye ses feux d'artifice pour faire le boum-boum pour commencer le match. » On était tous dans le scénario de cette façon-là. Puis on ne l'a pas réalisé. Puis c'est Pascal Abrini, quand je suis sorti du terrain, il dit, « Ouais, la plante, vous l'avez pas fait là-dessus. » C'était tellement drôle. Puis là, j'ai fait, « Ah, c'est vrai, c'est passé de moi à Janelle, à tout ça. » Puis l'autre qui a pesé, c'est parce que quand les feux d'artifice terminaient, ça faisait boum, boum. Puis il y avait une petite affaire à contrôler. Fait que lui, il était tout fier en arrière de la clôture de peser là-dessus. Fait que ça a été un beau moment, ça aussi.
Des bons moments, on en a vécu. On va en vivre d'autres aussi, j'ai l'impression. C'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. On a 25 ans derrière la cravate. Je pense qu'on est parti pour une autre séquence. Puis des belles soirées comme ça, on les prévoit pas. Hein. Ils arrivent à un moment donné, de façon un peu imprévue. C'est la plus belle soirée de l'été au stade. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas quand ça arrive, mais quand ça arrive, on le sait, par exemple. On va s'en souhaiter des comme ça dans les prochaines années. Francine, Michel, merci.
Merci.
C'était un plaisir.
C'est vraiment intéressant. Merci.